9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Il y a eu cette semaine le verdict de la Cour de cassation déclarant pénalement irresponsable l'assassin de Sarah Halimi et le procès de Viry Châtillon dans l'affaire des policiers brûlés de l'Essonne, la longue interview du président de la République au Figaro sur le thème de la sécurité et hier, l'assassinat d'une policière au commissariat de Rambouillet. Le professeur de criminologie Alain Bauer est en direct ce matin dans le studio de C'est arrivé cette semaine. Et puis, on reviendra sur la mort du président tchadien Idriss Déby avec le journaliste Antoine Glaser. Idriss Déby, encensé à Paris mais détesté au Tchad, est la parfaite illustration de son livre Le piège africain de Macron. Et enfin, je recevrai le groupe Institut pour leur nouvel album L'effet waouh des zones côtières, la version pop et décalée de notre époque confinée. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Vous êtes en France le seul professeur de criminologie, vous l'enseignez au CNAM. Alors je le disais, la semaine a été chargée, on a beaucoup beaucoup parlé criminalité, sécurité, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité ce matin dans cette émission. Et puis hier, il y a eu cet assassinat d'une policière au commissariat de Rambouillet. Alors on pourrait s'attendre à ce que vous ayez envie de vous exprimer sur ce sujet, et ça n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Alors, jamais je ne m'exprime à un moment sur un fait divers qui vient de se produire. D'abord parce qu'on n'en sait jamais rien. Et le fait de raconter n'importe quoi pour montrer qu'on existe, faire bouche-trou sur les émissions de télévision en continu, donner 498 hypothèses qui vont de « c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, l'invasion des Martiens, où tout est possible et réciproquement », n'a aucun intérêt. Mon sujet, il est pédagogique. La pédagogie, c'est d'abord savoir de quoi on parle, en tout cas le savoir le plus possible, ouvrir éventuellement des hypothèses, et puis quand on sait des choses, dire, eh bien écoutez, sur le temps long, par rapport à ce qu'on sait, l'état de l'art, l'état de la science, faire un travail qui est à peu près celui du journaliste quand il n'est pas un speakerin, c'est-à-dire pas quelqu'un qui lit les dépêches ou écoute son oreillette, mais qui a un cerveau et qui s'en sert pour faire part de son expérience, de sa compétence, de son travail. Je considère que c'est la même chose, donc peut-être que ce soir, demain, je pourrais, là, normalement, dans un temps raisonnable, dire des choses éventuellement utiles parce que l'enquête aura progressé, que le travail des journalistes, comme des experts, comme des policiers, aura pu donner des choses, que le parquet se sera exprimé. À ce moment-là, ça sera utile. Pour l'instant, ça ne sert à rien. C'est faire du bruit et je préfère dire des mots.
Il y a toujours beaucoup d'émotions quand il y a un fait divers de la sorte. Est-ce que l'émotion empêche de réfléchir pour vous ?
L'émotion n'empêche pas de réfléchir, mais l'émotion prend le dessus sur la réflexion. La réflexion passe en arrière-plan. Elle fonctionne un peu en mode dégradé. On a toujours le sentiment qu'il faut dénoncer, se mettre en posture. Ça n'arrivera plus jamais, qu'on raconte chaque fois que ça arrive, donc régulièrement. C'est une position très, très étrange de ne plus devenir qu'un émotif ordinaire au lieu de devenir un citoyen informé. Donc l'émotion est utile, nécessaire, les proches, la famille, les amis, les collègues, ils doivent laisser exprimer cette émotion. Mais les commentateurs, ce n'est pas leur rôle. Et donc, le commentateur devrait moins commenter, plus chercher, plus s'éduquer, plus s'informer. Voilà, ce sont des choix.
Et les politiques, on dirait qu'ils sont voués... Alors, on parle beaucoup de l'instrumentalisation, de l'insécurité par les politiques, mais est-ce qu'eux, évidemment, ils réagissent, ils sont sommés de réagir? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Et surtout, de quand ça date? De quand ça date cette instrumentalisation, ou en tout cas cette obligation pour les politiques d'être sur le front dès l'instant où il y a, alors, un attentat, bien sûr, mais aussi un procès ou un fait divers qui nous offusque?
Ça date des médias et de la création de ce qu'on appelle l'opinion. Mais la demande est toujours la même. C'est la réponse qui a changé. La demande de réaction est immédiate. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre position? Qu'allez-vous faire? Et après tout, les responsables politiques, qu'ils soient élus, nommés, autocrates, monarques, ils ont une obligation de dire des choses. Quand ils ne les disent pas, ils sont critiqués. Quand ils les disent, ils sont critiqués aussi. Et donc, ils ont toujours ce choix. Jacques Pilan était celui qui avait le mieux compris, je crois, la société moderne.
Le conseiller en image
de François Mitterrand. Il disait, le monarque, qu'il soit républicain ou pas, il a deux missions essentielles en termes de réaction. La distance et la rareté. On ne se précipite pas sur les lieux d'un attentat. On reçoit les victimes. On ne vient pas perturber l'enquête et mobiliser des effectifs considérables. On prend le temps et on dit les choses avec la majesté et la distance nécessaires. Tout ceci a disparu depuis. Et je crois que la plupart des responsables politiques qui pensent que la surmédiatisation, l'augmentation massive, les réseaux sociaux les poussent à désormais réagir à tout, tout le temps, à dicter à leur tweet celui qu'on regrette déjà et celui qu'on attend désespérément, qui pourrait nous démontrer qu'on n'est pas mort puisque la machine vibre encore, sont des éléments qui renforcent le fait qu'à mon avis, Pilon avait raison. Plus il y a de médias, plus il faut être distant et plus il faut être rare.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a donné une longue interview cette semaine sur le thème de la sécurité dans le Figaro. Et c'était une des raisons pour lesquelles je vous avais invité, Alain Bauer. Longue interview, alors réfléchie celle-là, dans laquelle il parle de l'augmentation des violences sur les personnes. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il y a vraiment une augmentation ?
Alors, violence, on ne sait pas ce que c'est. Je n'ai pas d'indicateur de la violence, il n'y en a nulle part. Le code pénal ne sait pas les indiquer. On a toute une série de critères qui sont clairement définis, eux. Et il y en a notamment un que j'appelle l'homicidité, c'est-à-dire 5 critères cumulés. Homicide, tentative d'homicide, qui ne sont que des homicides ratés. Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Règlement de compte entre malfaiteurs. Et puis la même chose chez les mineurs. Et ceux-là, ils augmentent très, 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 très fortement. Après une civilisation du crime qui a été réelle et longue, où on est passé d'à peu près 150 homicides pour 100 000 habitants, c'est notre critère de définition, parce que ça permet de savoir aussi la démographie par rapport à la quantité, c'est important de savoir de quoi on parle, on est passé à moins de 2. Donc on a civilisé le crime, vraiment, de manière massive. Mais depuis une vingtaine d'années, il y a une poussée considérable, régulière, qui fait qu'en décembre 2020, on avait atteint le plus haut niveau des 20 dernières années et le plus haut niveau jamais enregistré depuis qu'on a une statistique moderne d'enregistrement des faits.
Ça date des années 70,
72. Et donc, il y a là une vraie dégradation des violences physiques à caractère morbide qui indique qu'effectivement, le président de la République a raison en signalant qu'il y a une forte augmentation, en tout cas sur ce critère-là qui n'est pas discutable. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui ont été blessés ou tués. Et la blessure, c'est juste parce qu'on n'a pas réussi à les tuer.
Et il évoque aussi dans cette interview, et il n'est pas le seul, l'augmentation des violences contre les dépositaires de l'autorité publique.
Alors là c'est pareil, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Parce que dans ces violences, il y a des violences verbales, des violences physiques, des violences de toute nature. Disons que clairement, l'enregistrement des déclarations par les dépositaires des violences qu'ils ont subi une forte augmentation. Est-ce un effet de révélation ? Est-ce un effet d'inflation ? Est-ce un effet d'hypersensibilité ? On n'est pas capable de le savoir à ce jour.
On fait une pause, Alain Bauer, on se retrouve tout de suite après.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Nous sommes toujours avec Alain Bauer. Emmanuel Macron, toujours dans cette interview, veut un grand débat sur la drogue, mais pas pour dépénaliser ou pour légaliser, comme beaucoup de nos pays voisins, y compris des États conservateurs aux États-Unis, comme l'Arizona, que vous connaissez bien, Alain Bauer. Il veut plutôt un débat sur le thème « Consommer, c'est mal », ça encourage le trafic. Et la politique française, en ce qui concerne la drogue, reste la même. Ne laisser aucun répit aux trafiquants, éradiquer le trafic, harceler les dealers. Je le cite là. Est-ce que ça marche ?
La démonstration est faite qu'une politique de prohibition, ça se traduit en général par une augmentation des prix, une baisse, une complication de la diffusion et un état relativement inconnu de la consommation. Les politiques de prohibition en France, qui sont récentes, elles ne datent que de 70, qui ont été imposées par les États-Unis parce qu'on les inondait de cocaïne de très bonne qualité issue des labos marseillais, c'est traduit par une augmentation de la production, une augmentation de la qualité, une baisse des prix et une augmentation de la consommation inédite, puisque c'est un des pays les plus touchés d'Europe, et en tout cas de l'Occident. Donc la démonstration est que cette politique ne marche pas. Comment on traite les addictions en général ? On les traite comme un sujet de maladie. On les traite de manière clinique. Et puis le pénal, on le réserve aux gros trafiquants et à ceux qui profitent de la maladie des autres. Nous, notre système, il est tout pénal. Alors, le code pénal, c'est prison pour tout et pour tous, ça ne marche pas. En matière de stupéfiants, c'est pire, parce que la loi de 70 ne fait aucun tri. Il y a une très belle et très efficace mission d'étude de l'Assemblée nationale, avec des parlementaires de la majorité et des oppositions qui se réunissent, qui fait un travail remarquable et considérable pour montrer justement qu'on pourrait revenir à ce qui avait très bien marché entre 1880 et 1970, quand les médecins parlementaires avaient imposé qu'on traite cette question d'abord du point de vue médical, comme l'alcool et le tabac, et ensuite du point de vue pénal pour les trafiquants, on pourrait revenir à cette forme-là d'équilibre qui a été détruite depuis 1970 et qui a montré son inefficacité totale en matière préventive, dissuasive et répressive.
Vous faites allusion à la... Vous parlez de cocaïne en ce qui concerne la French Connection. Je croyais que c'était de l'héroïne.
Il y a cocaïne, héroïne. Enfin, vous avez raison par ailleurs. Mais nos laboratoires, c'était ce qu'on appelait les drogues dures. Je précise d'ailleurs que les drogues douces, désormais, sont avec un taux de concentration en THC tétrahydrocannabinol tellement fort que ce n'est plus une drogue douce non plus. Donc, il y a un gros effort, mais vous avez raison de la correction.
Après le procès de Virgile Châtillon dans l'affaire des policiers brûlés en Essonne, 5 jeunes ont été condamnés à des peines entre 6 et 18 ans de prison, mais 8 ont été acquittés. Alors, des syndicats de policiers ont trouvé le verdict trop clément, mais aussi des politiques comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, lui-même candidat probable à la présidentielle et qui a déclaré sur Europe 1 qu'il voulait une peine de prison automatique minimum en cas d'attaque des forces de l'ordre, donc plus d'acquittement possible. Il faudrait même l'inscrire dans la Constitution. Tout ça vous semble raisonnable et possible ?
Pour l'inscrire dans la Constitution, il connaît le mode d'emploi, donc je lui souhaite bien du plaisir, y compris pour passer plusieurs barrages importants en termes de fondement. Alors je ne sais pas s'il voulait que la peine soit automatique ou que la condamnation soit automatique, parce que
oui, pas... procès ou pas procès.
Voilà, donc moi je suis pour le procès de manière systémique et ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est d'abord le fait que la cour d'assises d'appel a été très loin dans l'analyse de la réalité de l'enquête et a mis en cause en partie les réalités de l'enquête, c'est-à-dire entre ce que l'enregistrement audio fait entendre et ce que la synthèse écrite relève. Il se trouve que la synthèse est un produit très particulier de l'enquête et elle ne peut pas être aussi détaillée qu'un long enregistrement, mais elle doit être la plus précise possible. Et puis, moi, je ne commande pas les décisions de justice. Je souhaite que toutes les décisions de justice soient prises par le peuple français et pas seulement au nom du peuple français, que les cours d'assises ne soient composées que de jurés et que les magistrats déterminent éventuellement la peine, mais que les jurés déterminent la culpabilité. Et donc, je n'ai absolument rien à dire à la manière dont ce procès s'est passé. Je dirais même qu'il est probablement remarquable d'un point de vue de technicité, même si on est toujours déçu, qu'on soit dans la défense, la partie civile ou l'accusation du procès. Après, il y a eu des discussions, notamment sur ce qui se serait produit durant le huis clos, de la manière dont le parquet général a requis, qui là est un vrai sujet, mais un sujet, je dirais, de personnalité, d'humeur, de manière dont on doit porter la parole du public quand on est à la tête du parquet.
Et une décision de justice qui a, elle, été beaucoup commentée, c'est la décision de la Cour de cassation en ce qui concerne l'affaire Sarah Halimi. L'assassin de cette dame a été déclaré irresponsable pénalement. Et alors là, on en a beaucoup parlé.
Oui, alors il y a en fait deux débats, dont on a beaucoup parlé, dont on a moins parlé, d'ailleurs, c'était assez étonnant. Le premier, c'est sur l'abolition du discernement. En fait, depuis toujours, le 122.1 du Code pénal prévoit que quand vous êtes fou, pour faire simple, vous n'êtes pas responsable de ce que vous faites. Mais on a fait une nuance entre abolition pure et altération du discernement. On a dit que l'altération, c'était entre deux et que peut-être vous pourriez quand même être responsable. 6 experts ont dit abolition, 1 expert a dit altération et les juridictions de jugement ont considéré qu'il y avait abolition. Ce qui est ennuyeux dans cette affaire, c'est un élément sous-jacent. Parce que là, on est dans la psychiatrie, la psychanalyse, ce sont des sujets, après tout, 6 contre 1. Vous pouvez considérer qu'une majorité s'est clairement exprimée pour l'abolition. Ce qui est intéressant, c'est que les raisons de l'altération ou de l'abolition sont l'abus de stupéfiants, qui jusqu'à présent était une circonstance aggravante et qui est devenue une circonstance atténuante, avec une construction juridique extrêmement nouvelle et un peu curieuse, je dirais même très perturbante, sur le thème. Certes, il utilisait beaucoup de stupéfiants, mais il ne pouvait pas savoir que ça aurait un effet qui pousserait à une pulsion délirante, par ailleurs avec un antisémitisme larvé déjà existant. Là, je pense qu'on est dans ce qu'on appelle la création judiciaire, l'activisme judiciaire, comme on dit aux États-Unis, et que peut-être la Cour de cassation s'est laissée aller très loin dans son argumentaire qui aurait pu se limiter à 6 abolitions ou une altération. Nous maintenons l'abolition.
Merci, Alain Bauer, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Antoine Glaser. On va revenir sur la mort d'Idriss Déby.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Idriss Déby, qui dirigeait le Tchad depuis 30 ans, est mort assassiné cette semaine. Il est probable qu'il a plus été pleuré à Paris que dans son pays où il régnait d'une main de fer. Antoine Glaser, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été le directeur de la rédaction d'Africa Intelligence et vous venez de publier avec Pascal Hérault aux éditions Fayard Le piège africain de Macron. Là, on est vraiment dans votre livre, hein, car Idriss Déby, qui est encensé dans nos médias depuis sa mort, grand ami de la France, notre meilleur allié, un grand guerrier, j'ai même entendu une journaliste sur une radio concurrente s'extasier sur le fait qu'il venait d'être réélu triomphalement avec 79% des voix, comme s'il s'agissait d'une véritable élection. Idriss Déby, donc, c'était qui pour les Tchadiens ?
Pour les Tchadiens, c'était quand même d'abord un autocrate qui a été arrivé au pouvoir par les armes, qui s'était installé et qui, d'année en année, avait su, comme beaucoup de chefs d'État sur ce continent, en particulier dans le précaré francophone, il était quasiment devenu en même temps que chef de guerre constitutionnaliste. Ça veut dire, comme tous ces chefs, ils savent très bien gérer ce que j'appellerais le théâtre démocratique. Ça veut dire, bon, la démocratie, tout le monde sait que c'est quand même les contre-pouvoirs entre deux élections. Mais donc, ils savaient gérer les élections très bien, changer sa constitution. Et là, il entamait son 6e mandat. Mais la réalité, c'est qu'il restait quand même... D'abord, il le disait lui-même, que d'abord, il était d'une tribu guerrière, les Agawas, et que chez les Agawas, ben, les femmes restent à la maison, mais que quand il faut aller au combat, c'est très important que le chef monte à la tête de ses troupes. Ce qu'il avait fait l'année dernière, d'ailleurs, au Nigeria, pour la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, et ce qu'il a fait récemment en montant au front à 300 km contre, finalement, une rébellion dont il connaît très bien le chef Mahamat Ali, parce que Idriss Déby, comme son prédécesseur Hissène Habré, comme Mahamat Ali, enfin, c'est la même matrice. Ce sont des chefs rebelles du Nord, de ces massifs montagneux, et qui ont toujours sont descendus à N'Djamena, qui pendant très longtemps a été aux mains de personnalités politiques du sud du pays. Et donc ce sont quand même ces nordistes, ces chefs rebelles, qui sont constamment en compétition entre eux sur une base très souvent ethnique.
Il avait été placé au pouvoir par les services secrets français en 1990, alors que la France venait de déposer son prédécesseur, Hissène Habré, qui était lui aussi là par la grâce des Français. Et la France soutenait militairement la dictature d'Hissène Habré. Hein. Si l'opposition armée se montrait un peu trop menaçante, c'était des avions français qu'on envoyait pour la bombarder.
Absolument, en fait. Ce qui s'est passé avec Hissène Habré, moi j'ai reçu, enfin j'avais pour un précédent bouquin les confidences de Claude Ziberzan, l'ancien patron des services secrets français, qui m'avait raconté. Il m'avait dit, j'ai été voir Hissène Habré, il nous a rien dit. En fait, il était en train de nous faire un enfant dans le dos en négociant avec les Américains pour installer des rebelles tchadiens, des contras dans le sud du Tchad, au moment où François Mitterrand, avec Roland Dumas, était en train de négocier avec Kadhafi, au niveau de la bande d'Aouzou, était en train de négocier. Et je me souviens toujours de cette expression incroyable. Il m'a dit, ça veut dire comment il voyageait, il m'a dit, je sortais du Hissène Habré, j'ai dit à ma femme, celui-là, je vais le virer, parce qu'il nous fait, en ce moment, il va nous foutre le feu à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je veux dire, c'est ce qui est arrivé. Ça veut dire Idriss Déby est descendu le long de la frontière entre le Soudan et le Tchad, accompagné du représentant de l'époque de la DGSE à Khartoum, qui est la capitale du Soudan. Ils l'ont installé à N'Djamena et c'est devenu notre homme à N'Djamena.
Aujourd'hui, c'est son fils qui a pris le pouvoir, mais la France va-t-elle le soutenir ? Elle pourrait le remplacer par un membre de la rébellion armée, ceux qui ont assassiné Idriss Déby, car lui-même avait été un rebelle, un terroriste, comme on dit, avant qu'on le mette au pouvoir, comme Hissène Habré d'ailleurs. La rébellion armée, ce ne sont pas des djihadistes, ce ne sont pas des terroristes, c'est l'opposition hein, dans un régime qui n'en supporte pas beaucoup, justement, d'opposition.
Alors, c'est une opposition qui considère que finalement... C'est un groupe armé. Ils considèrent qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas jouer le jeu électoral. D'ailleurs, à la dernière élection, ceux qui ont joué le jeu électoral, au départ, ont boycotté finalement cette élection. Et ces groupes armés sont des gens, encore une fois, qui se connaissent. Le danger pour le nouveau régime, enfin la succession dynastique au Tchad, c'est qu'il n'y a pas simplement M. Mahamat Ali avec le front de l'alternance et pour la concorde, le FACT, qui est descendu. Je veux dire qu'il y a certainement d'autres rebelles tchadiens, très souvent au sud de la Libye, très souvent qui ont servi de supplétif à un certain nombre de groupes armés libyens, que ce soit du côté de Misrata ou du côté du maréchal Haftar, et que là, en échange de leur combat et leur efficacité, on les arme. Et la Libye, et depuis l'implosion de la Libye par la France, est une énorme armurerie à ciel ouvert. Donc il y a de quoi, c'est ce qui inquiète beaucoup la France et bien sûr le fiston Mahamat Idriss Déby. C'est que finalement, il sait très bien qu'il peut y avoir d'autres rébellions qui arrivent du sud de la Libye.
Antoine Glaser, cette politique qui est menée depuis longtemps en notre nom, nous les Français, elle n'est pas dictée par les Français, ni par les entreprises françaises qui travaillent sur le continent africain. Or, elle nous a déjà coûté cher. Les Américains nous ont remplacés au Rwanda, les Russes en Centrafrique, les Chinois progressent en Côte d'Ivoire, les Turcs au Sénégal. Alors, qui détermine la politique africaine de la France? Est-ce que c'est le Quai d'Orsay? Est-ce que ce sont nos services secrets? Emmanuel Macron, comme ses deux prédécesseurs, voulait en changer. Et comme vous dites dans votre livre, il se retrouve piégé.
Absolument, ça veut dire Emmanuel Macron avait vraiment de grandes ambitions. Il déteste franchement la France-Afrique. Il a voulu tenir l'ensemble de ses autocrates à bout de gaffe. Il rêve que d'aller dans l'Afrique anglophone et lusophone, d'aller en Afrique du Sud, en Angola. Il n'a pas pu pour cause du Covid, mais il déteste. Sauf que finalement, la France-Afrique, c'est comme un gros bateau. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Ces autocrates lui font comprendre que pour la diplomatie d'influence de la France, c'est eux qui sont là. Et donc, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comme ça qu'il s'est fait piéger. Et donc, il y a des discours, mais la réalité du terrain, c'est le Tchad.
On se retrouve juste après une pause, Antoine Glaser. Vous allez nous en dire plus.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Antoine Glaser, le co-auteur avec Pascal Hérault du Piège africain de Macron qui vient de paraître aux éditions Fayard, est avec nous ce matin pour parler de la mort d'Idriss Déby. Alors Idriss Déby était un fidèle allié de la France. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian ont assisté à ses obsèques. Mais notre soutien à des régimes comme celui-ci qui ne se maintiennent que grâce à nous et dont nous sommes complices des exactions, ça ne nous apporte pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Comment nous voient les Tchadiens, par exemple?
C'est vrai que c'est au-delà même des Tchadiens sur l'ensemble du continent. Il y a toute une jeunesse africaine ça développe des sentiments anti-français. Ça veut dire qu'ils ont l'impression, à tort d'ailleurs, ils pensent que la France dirige tout, contrôle tout, etc. Alors c'est vrai que le Tchad, c'est vrai que l'armée française est installée là-bas de longue date. C'est vrai qu'elle ne veut absolument pas perdre sa base aérienne parce qu'il n'y a pas 36 bases aériennes dans la région. C'est vrai aussi qu'au sein du G5 Sahel, en dehors de la Mauritanie et du Tchad, il n'y a pas vraiment de relais. C'est vrai qu'il y a des troupes tchadiennes qui sont en relais, 1200 soldats. Très récemment, Idriss Déby avait accepté de mettre un bataillon de 1200 soldats dans cette fameuse région des trois frontières où il y a les djihadistes. Mais globalement, pour l'ensemble de la jeunesse africaine, ils sont persuadés que c'est la France qui contrôle tout, alors que la vérité, c'est quoi? C'est que finalement, à Paris, il y a eu un véritable état de sidération à la disparition d'Idriss Déby, parce qu'il n'y a pas de plan B, il n'y avait pas de plan B, parce que finalement, la France perd petit à petit ses relations avec la jeunesse africaine. D'autre part, en plus, ça fait une sorte de déco des savanes, d'effet boomerang sur les diasporas en France, qui sont très souvent des exilés politiques. C'est eux qui animent les réseaux sociaux. Et finalement, il y a des discours de la France et on veut sortir de la France-Afrique. Mais comme ça ne change pas du point de vue de cette jeunesse africaine, ils se rendent pas compte qu'on est déjà beaucoup plus dans l'Africa-France que dans la France-Afrique. Ça veut dire les chefs d'État africains, tous ces autocrates, eux, d'abord, ils savent changer les constitutions. Ils ont des réseaux d'Africa-France, ils ont des réseaux en France, des obligés qui sont créés d'année en année. Et on est dans un rapport où la France est beaucoup plus faible qu'on ne croit. Et pendant ce temps, quand vous discutez off avec des diplomates européens, ils se disent « Très bien, la France, elle fait la sécu, nous, on fait le business ».
Justement, il y a le baromètre Africa Leads des leaders d'opinion en Afrique qui a été réalisé par l'Institut de sondage IMAR à la demande d'ailleurs du Conseil français des investisseurs en Afrique. C'est donc un sondage qui est fait pour les Français, hein, pour les hommes d'affaires. Il est paru en mars et pour la troisième année consécutive, la France perd du terrain. Quand on interroge les Africains décideurs politiques et économiques, les hauts fonctionnaires, les leaders associatifs, les leaders de la société civile, les journalistes, les influenceurs, les chefs religieux et qu'on leur demande quel est le pays extérieur à l'Afrique qui bénéficie de la meilleure image, la France n'arrive plus qu'en septième position, derrière les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, la Grande-Bretagne, la Chine et le Japon. Donc on n'a plus que 17% d'opinion favorable. On est talonné par la Turquie. L'année dernière, on était sixième. L'année d'avant, on était cinquième. Cette année, on est septième.
C'est dramatique. Ça veut dire qu'on voit, contrairement au-delà même des discours, c'est vrai que la France, autant tout le monde a bien vu la réunification de l'Allemagne à la fin de la guerre froide, tout le monde a bien vu la réunification de l'Allemagne, mais la mondialisation de l'Afrique. La France a cru qu'elle était toujours chez elle en Afrique, qu'elle allait pouvoir continuer comme auparavant. Et c'est vrai qu'on ne va pas pleurer parce qu'elle contrôlait des marchés. C'était vraiment des rentes de situation pour les entreprises françaises. Il n'y avait pas de concurrence puisque les autres occidentaux laissaient la France gérer son précaré parce qu'elle luttait contre l'Union soviétique, au nom de la lutte contre l'Union soviétique. Mais maintenant, je veux dire, la France n'a pas vu que l'Afrique totalement se mondialisait et complètement sidérée de voir que même dans des bastions comme la Côte d'Ivoire, les Chinois sont devant la France ne sait plus quoi faire. Alors Emmanuel Macron dit, voilà, il faut l'entrepreneuriat. Sauf que quand vous avez eu pendant 30 ans des rentes de situation comme ça, et d'ailleurs, effectivement, c'est pas du tout des gauchistes qui ont fait ce sondage. C'est vraiment le CIAN, c'est le cœur du patronat français en Afrique. Ce sont les filiales des entreprises françaises en Afrique, des grands groupes français. Et eux-mêmes sont sidérés. Ils disent, ça n'imprime plus. Ils sont sidérés de voir que la France perd ses marchés. Ils ne savent plus trop quoi faire. Ils essayent d'africaniser et autres. Mais il y a un vrai, là aussi, il y a un effet de sidération absolument incroyable.
Il y a même pire, il y a un autre sondage, toujours par le CIAN, hein, sur quels sont les partenaires bénéfiques pour l'Afrique. Et là, c'est la Chine qui arrive première, puis les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Japon, la Turquie, la Grande-Bretagne, les Émirats arabes unis. On est neuvième.
Oui, parce que c'est Potemkin. On voit que la présence de l'armée française, ça sert vraiment de cache-misère a vraiment une présence française globalement en déshérence sur ce continent. Et en plus, c'est un peu l'écho des savanes avec finalement les diasporas ici. Et on voit bien que la France a vraiment du mal. C'est un anachronisme historique. Elle n'a pas atterri. On n'est pas en 2021. Quand on voit le N'Djamena, on a l'impression qu'on est dans les années 80, 70-80.
Et surtout quand on voit Idriss Déby.
Quand on voit Idriss Déby, ça veut dire que c'est vraiment les relations de la France éternelle dans cette région, sans voir tout ce qui se passe autour, sans voir l'Afrique se mondialiser, sans voir, on parle toujours bien sûr de la Chine et autres, mais il faut voir comment, et même Emmanuel Macron, comment il est fou furieux contre la Turquie qui est la main dans la main au Sénégal, au pays de Léopold Sédar Senghor, de la France éternelle, etc. Et au niveau de la francophonie, on voit bien que Emmanuel Macron, il rêve que de Paul Kagame, il rêve que de Rwanda, sauf que la réalité du business français en Afrique, c'est dans ses anciennes colonies.
Merci Antoine Glaser. Le piège africain de Macron, ça vient de paraître chez Fayard. On se retrouve juste après une pause avec le groupe Institut.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Nina Savary, Arnaud Dumatin, Emmanuel Mario, vous êtes les trois membres du groupe Institut qui sort un nouvel album, l'effet waouh des zones côtières, un album d'une modernité confondante puisqu'il parle du confinement, du déconfinement, mais d'une façon pop et langoureuse. Je me suis dit en l'écoutant, si on ne veut pas trop souffrir de cette époque, au fond, il faut la mettre à profit, la faire résonner différemment et se dire que de cela aussi, on aura un jour la nostalgie.
Oui, alors sans doute, en tout cas on l'espère. On espère que ce sentiment sera présent d'ici quelques années. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment la nostalgie de...
Non, mais quand on vous écoute, on va écouter tout de suite Prenez soin de vous, une des meilleures chansons de l'album. Bon, on l'écoute.
Tu parlais à une femme entre deux âges, au fort potentiel de séduction, activant dans ton cerveau les zones de plaisir, une déferlante d'hormones et de neurotransmetteurs.
Un agent assermenté à mauvaise haleine t'a dit: c'est fini la bamboula. Activité non essentielle. Restez chez vous.
Tu as rejoint la Fédération française de sport confiné. Tu repenses au mois d'août. Tu roulais à fond un peu défoncé sur l'autoroute des deux mers avec ta Renault Kadjar à la calandre rassée.
Le soleil rasait le Buffalo Grill. Il était 21h. Ça te plaît que tout bascule si vite? Tu as l'air surpris.
L'état d'urgence, une expérience cocooning pour toute couche sociale.
Tu confines seul dans ta suite parentale aux belles prestations.
Dans ta bulle, il ne se passait déjà pas grand chose pour toi en Libye. Mais là, tu en as oublié le nom. Tu penses à celle que tu n'as pas eue.
Tu fais un retour sur toi. Au feu vert, tu craqueras pour un pantalon 60% lin, 40% laine vierge.
Ça te plaît alors l'état d'urgence?
Nina Savary, quand on vous écoute la chanter, on se dit qu'au fond, oui, l'état d'urgence, ça peut être une période inspirante.
Bah oui, au fond, c'est vrai que c'est une période absurde et qui peut avoir une certaine poésie aussi.
Emmanuel Mario?
C'est une période dans laquelle on ne sait pas trop comment agir. Donc, de toute façon, l'album a été fait en fonction de l'actualité. Arnaud écrit les textes, tous les textes de l'album, et il s'est toujours beaucoup inspiré de ce qui se passait. Donc,
Mais on entend bien en vous écoutant qu'on a quitté au fond le plan trivial où on avait l'habitude de vivre pour se retrouver sur le plan tragique. Alors évidemment, comme ça dure, au fond, même le plan tragique devient trivial aujourd'hui.
Oui, les deux se rejoignent. On travaille plutôt sur la trivialité, enfin, c'est un peu le point de départ. Ensuite, effectivement, il peut y avoir une dimension tragique dans cette trivialité.
Alors justement, la trivialité, c'est cette chanson qui raconte un rendez-vous sur Tinder, l'application de rencontre, avec Jair Bolsonaro.
Un homme élégant, Jair Bolsonaro, marche sur l'avenue. Son parfum est floral, ses lignes de la main sont des autoroutes.
Il mise tout sur Tinder en janvier 2020 et prend l'abonnement Gold pour dégager des fonctionnalités. Les likes en illimité, les super likes.
La fonction coup de cœur pour optimiser, ne rien laisser au hasard.
Il partage un jean fizz avec craquante à souhait, directrice de clientèle, rigoureuse et organisée.
Sur un canapé d'angle, il met la main dans son benne et retire sa culotte aux finitions sans couture pour un confort absolu.
Jair ferme les yeux et s'endort. Dans son rêve, c'est la zone portuaire de Rio de Janeiro, interdite aux piétons.
Stéphanie 42, gestionnaire de planning, lui offre du gel hydroalcoolique et un masque de protection grand public. Elle lui dit:
Jair, je te préférais quand on faisait des plans à quatre sur House Party. On était bien dans le game, sans filtre.
Il fallait le dire, ça. Jair, je te préférais quand on faisait des plans à quatre. Ça vous a pas arraché la bouche, Nina Savary?
Bah non, au contraire. Moi, j'aime beaucoup ce décalage entre le côté un peu trivial et réaliste des textes et la forme qui est très sensuelle, comme ça, et un peu onirique.
Mais pourquoi Jair Bolsonaro? Parce que ça sonnait bien ou parce que c'était justement le plus inattendu?
Un peu les deux. Et aussi parce que c'est un personnage assez intéressant. En fait, c'est un personnage.
Et très emblématique de notre époque.
Exactement. Justement.
Malheureusement, vous êtes privé de scène, mais de faire des concerts aussi, ça, aujourd'hui, tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir en faire au moment où on croyait que c'était fini, ils vous disent que c'est une expérience quand même assez extraordinaire de faire un concert devant des gens qui portent des masques, dont on ne sait pas s'ils sourient, s'ils ne sourient pas, s'ils sont tous éloignés les uns des autres. Vous l'avez vécu, ça?
Nous, on ne l'a pas vécu, parce qu'on n'a pas fait de concert depuis très longtemps. Mais en tout cas, c'est une expérience que je ne souhaite pas forcément, d'ailleurs, vivre pour cet album. On attendra un petit peu, je pense.
Ah oui, vous n'êtes pas si pressé que ça de remonter sur scène, comme souvent le sont les artistes en ce moment?
Pas spécialement, peut-être Nina davantage.
Oui, moi j'aimerais bien, mais...
Avec un masque?
Oui, pourquoi pas.
Emmanuel ?
Non, pas particulièrement. Et puis c'est vrai que quand on a travaillé sur cet album, on était quand même parti de l'idée qu'il n'y aurait pas forcément de live et le Covid est venu certifier tout ça.
Justement, il y a une chanson sur cet album, On se voit demain, qui est sur le présentiel et le distanciel. On en écoute tout de suite un extrait. On voit bien que cette pandémie a ouvert des pistes de réflexion et d'expérimentation sans fin.
Oui, effectivement. Alors là, on s'est appuyé sur des éléments de langage, hein, puisque cette période est très riche en nouveaux éléments de langage. Et ça nous plaît beaucoup de les intégrer, que ce soit d'ailleurs aujourd'hui ou sur les albums précédents. C'est une récurrence.
C'est le côté slogan, je trouve, qui est très présent dans la pop française, depuis R au moins. On se souvient des morceaux de R où il y avait comme ça des mots qui revenait en permanence et j'ai l'impression que ça a essaimé depuis.
Alors ça peut-être de façon inconsciente, mais en tout cas c'est pas... Le principe de l'anaphore, en tout cas on l'a déjà expérimenté sur le premier album et c'est peut-être une facilité, mais en tout cas ça fonctionne bien.
L'album s'intitule L'effet waouh des zones côtières, un très bon titre d'ailleurs, d'où sort-il ?
Alors c'est une façon de faire coïncider des choses qui normalement n'auraient pas lieu de se rencontrer en fait.
Le groupe s'appelle Institut, merci d'être venu jusqu'à nous tous
merci.
Les trois.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine est terminé. On se retrouve demain matin à 9h. Après le flash, vous avez rendez-vous avec Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est votre programme, Sébastien ?
Eh bien, les policiers pris pour cible à Rambouillet, mais aussi à Tourcoing. L'offensive d'Emmanuel Macron sur le régalien est-elle mise à mal ? La mort du président tchadien et ses conséquences pour la France dans sa lutte contre le terrorisme au Sahel. Et puis, on parlera d'un homme qui ne pense pas à la présidentielle quand il ne se rase pas. Vous voyez de qui je parle ? Édouard Philippe, bien entendu. Un traître pour la droite, selon Christian Jacob. On va en débattre.
Bonne émission.
Merci.